Vous écoutez
RMC. RMC. 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et bon réveil à tous, bon courage à ceux qui ont déjà attaqué peut-être leur journée de boulot, ceux qui sont déjà sur la route, ceux qui sont encore tranquilles à la maison, c'est peut-être le premier café de la matinée. Et ben on va le partager tous ensemble en ce mardi 26 mars avec Géraldine Demory. Salut Géraldine.
Salut tout le monde.
Ah bah quand on dit tout le monde, d'abord il y a évidemment toute l'équipe ici, je pense à Anna, Fabien, Régis, Quentin, Nico, Standard, toute l'équipe qui va nous rejoindre aussi autour de la table. Et puis tiens, il y a aussi tous les leftos qui sont déjà
mais
sur
oui,
Direct
Studio. Mais oui, il y a Olivier, il y a Monique, il y a Richard qui nous font un petit good morning, hello la team, voilà, il y a tout le monde qui est là déjà.
Et là-dessus, on ne peut que vous remercier parce qu'avant même qu'on s'installe dans le studio, il y a déjà des messages, voilà, vous êtes en avance, on
et
est tous ensemble.
Ça aide vachement, ça met la patate déjà pour démarrer.
Exactement, ça donne très envie de démarrer l'émission, on est impatients tous les matins de vous retrouver, d'autant plus impatients cette semaine que vous le savez, si vous étiez avec nous hier, le coffre est de retour cette semaine sur RMC. Et alors bon, j'ai croisé le coffre hier. Il a jamais été aussi lourd, jamais été aussi garni. Non mais c'est vrai, ça fait quelques années qu'on est sur RMC, Géraldine, on n'a jamais vu ça. Oui. Il y a 50 000 euros peut-être pour vous dans le coffre. Il faut être attentif n'importe quand, à l'antenne, mais aussi peut-être pendant la pub. Hier, c'est tombé pendant la pub. Mmh. Quand vous entendez ce signal... C'est l'alerte. Vous aurez alors 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16.
Et vendredi 29 mars, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir ce coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros, mais vous pouvez décider de la remettre en jeu, cette somme, et d'ouvrir donc le coffre RMC.
Oui, avec à l'intérieur, soit une semaine de vacances dans un des campings Tikian pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Bref, le coffre, on va l'ouvrir ensemble vendredi, mais... dès ce matin, il faut être attentif. À tout moment d'ailleurs, dans la journée, ça peut tomber dans toutes les émissions, même pendant la pub. Bref.
Et même plusieurs fois par émission. Hein.
Et oui, hier c'est tombé deux fois, par exemple, dans Charles Matin. Donc soyez bien attentifs ce matin à l'alerte coffre. Et puis évidemment, toute l'info, c'est ce matin sur RMC. On va débattre tous ensemble parce que, évidemment, vous l'avez suivi, l'alerte Vigipirate est relevée à son niveau maximum. Urgence attentat, une alerte renforcée à moins de 4 mois des JO. Et cette question qu'on vous pose ce matin, est-ce qu'on aura les moyens de se protéger face à la menace terroriste?
En tout cas, depuis janvier, deux attentats ont été déjoués par les forces de l'ordre. C'est ce que dit Gabriel Attal, qui annonce que 4000 militaires supplémentaires sont en alerte, mobilisables à tout moment. Des renforts qui s'ajoutent aux 3000 militaires qui sont déjà déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle.
Ouais, sujet sensible avec vous ce matin au 32-16. On a besoin d'entendre votre sentiment d'abord dans ce contexte d'alerte maximale. Est-ce que ça a réveillé quelque chose? On l'avait un peu oublié ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que voilà, ça a réveillé un sentiment chez vous, peut-être une crainte, cette menace, cette alerte maximum? Est-ce que vous estimez qu'on est prêt à y faire face? Est-ce que vous redoutez les JO? Est-ce que tout est mis en place? On va en débattre avec vous ce matin, évidemment, le 32-16 pour vos témoignages. Il y a aussi Direct Studio pour tous vos messages. Et puis tiens, aussi, on va vivre un autre événement ce soir sur RMC France-Chili, 21h. On retrouve les Bleus qui doivent se racheter après leur triste prestation face à l'Allemagne. Ce sera à Marseille, donc à 21h, ce France-Chili. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h, toute l'info, c'est en direct, c'est votre journal. Avec Thomas Schnell, bonjour Thomas.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La branche du groupe État islamique qui a fait 139 morts à Moscou avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur le sol français, affirme Emmanuel Macron. Quelle efficacité des opérations Place Net. Ces interventions massives contre les trafics de drogue se multiplient, 4 de plus hier. Mais près de Grenoble, on voit déjà les trafiquants revenir. Et puis ce soir, France-Chili, match amical au Vélodrome qui retrouve l'ex buteur de l'OM, le Chilien Alexis Sanchez, de retour à la commanderie.
4000 militaires appelés en renfort pour muscler le plan Vigipirate.
L'attentat de Moscou a provoqué une onde de choc jusqu'à Paris, comme un message adressé au pays visé par le groupe État islamique au Khorassan. Cette branche de l'organisation djihadiste menace la France. Plusieurs projets d'attentats sur notre sol lui sont imputés, Mathis Caron.
Oui, la dernière en date, cet attentat près du pont Bir Hakeim à Paris en décembre dernier. Un touriste avait été tué, deux autres personnes blessées. L'assaillant, un homme de 26 ans, s'est présenté comme membre de la branche État islamique au Khorassan. Avant cela, en novembre 2022, un projet d'attentat a été déjoué à Strasbourg, une semaine avant l'ouverture du marché de Noël. Cette personne interpellée pour une tentative émanant de cette même branche, confie le parquet national antiterroriste à BFM TV. Gabriel Attal a indiqué que deux autres projets d'attentat avaient été déjoué depuis le début de l'année. Le 10 janvier, un individu de 22 ans interpellé. Il envisageait plusieurs cibles, la communauté LGBT, juive ou projeté de commettre une attaque contre une boîte de nuit. Le 5 mars, un autre homme de 62 ans arrêté. Il visait une église.
La menace terroriste est très élevée en France et en Europe, prévient Gérald Darmanin. Nous avons proposé aux services russes, comme à nos partenaires de la région, une coopération accrue, déclare de son côté Emmanuel Macron à son arrivée en Guyane.
Et vous venez nous dire ce matin au 32-16, est-ce que, à vos yeux, la France est prête à faire face à cette menace? Est-ce que ça vous inquiète particulièrement à 4 mois des JO? Vous prenez la parole, vous témoignez au 32-16.
Pour la première fois depuis les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas contre Israël, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Vote quasiment à l'unanimité, 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis, oui. Mais la résolution a peu de chances d'être suivie d'application, selon Patrick Martin-Jeunier.
Il va être extrêmement difficile dans les prochains jours de concrétiser ce cessez-le-feu, car on voit bien aujourd'hui qu'Israël est furieux, ne veut pas la mettre en place. L'ONU est largement marginalisée dans ce conflit, on l'a bien vu, le Qatar, mais aussi l'Égypte. Les pays médiateurs vont avoir un rôle très très important, car malgré cette résolution des Nations Unies, la libération totale des otages et sans condition, c'est aussi quelque chose qui permettra d'ouvrir la voie à un véritable cessez-le-feu effectif.
Une semaine après Marseille, de nouvelles opérations Place Nette version XXL, des interventions massives des forces de l'ordre menées contre le trafic de drogue à Dijon, à Roubaix, en région parisienne, dans la métropole lyonnaise. Près de 500 suspects ont été interpellés en une semaine. À Échirolle, dans la banlieue de Grenoble, une école tourne au ralenti depuis le retrait de 5 agents. L'établissement est cerné par les trafics. Ils ont exercé leur droit de retrait. Et malgré l'opération Place Nette il y a seulement 2 semaines, le trafic se rapproche des grilles de l'école Vincent Chevalier.
Niché au milieu des tours, l'école est sous surveillance. Des guetteurs filtrent les accès. Un cadre de travail compliqué pour les travailleuses du périscolaire, selon Yann Selton, délégué CGT à la ville d'Échirolles.
Ils sont proches des murs, ils peuvent être amenés à cacher de la drogue à proximité des fenêtres. Et c'est ça qui les perturbe.
Un sentiment d'insécurité personnelle, mais aussi une crainte pour les maternelles.
Ils étaient aussi assez préoccupés par rapport aux images que les enfants ils peuvent avoir en fait, de tout ça.
Une opération Place Nette a pourtant été menée il y a 2 semaines dans le quartier. Des interpellations, des saisies et encore pas mal de travail à faire, selon Amandine Demort, la maire d'Échirolles.
Je suis très contente de ces opérations, mais aujourd'hui, il faut les multiplier parce que force est de constater que ça n'a pas résolu le problème sur ce secteur.
À l'échelle communale, tout est mis en place, mais les moyens sont limités. Aujourd'hui, l'élu appelle donc le gouvernement à l'aide.
Des moyens, des effectifs supplémentaires de police nationale qui soient plus présents sur le secteur. Voilà qu'on tape du poing sur la table. Non, on ne touche pas à l'école de la République.
Selon la maire, des garanties ont été données par la préfecture de l'Isère. En attendant, les agents maintiennent leur droit de retrait au moins jusqu'à demain.
La police grenobloise à la recherche d'un violeur en série. Au moins 8 femmes ont été violées ou agressées sexuellement ces derniers mois. Toutes décrivent le même portrait, le même mode opératoire des agressions de nuit et près de leur domicile. Qu'est-ce qui empêche les jeunes de travailler aujourd'hui? Près des 3/4 s'auto-censure tout simplement par manque de confiance en soi. 73% des 18-24 ans renoncent à candidater. Ils pensent n'avoir aucune chance d'être sélectionnés. La crainte notamment de jugements discriminatoires participe à cette auto-censure, Ameline Lafchin.
Un seul poste, plusieurs candidats et pour Linné Hanan, des critères de sélection différents pour tous.
Physiquement, si on est belle, je pense que ça joue. Si on est étranger, je pense que ça joue aussi.
La société dans laquelle on vit, elle est basée sur le privilège. Et du coup, malheureusement, d'autres sont désavantagés parce qu'ils ne font pas partie d'une catégorie précise.
D'après cette étude, 71% des 18-24 ans considèrent qu'une personne issue des minorités a moins de chances d'être recrutée. Alors à 19 ans, Lynn, encore étudiante, s'est déjà préparée aux discriminations au travail.
Je vis en banlieue et je suis aussi une femme et une personne de couleur. Je suis obligée de subir ça. Les minorités doivent toujours se surpasser pour pouvoir prouver qu'ils sont assez compétents dans ce qu'ils font.
Conséquence, plus de 70% des jeunes renoncent à certaines offres d'emploi, comme l'explique Valérie Alexandre, directrice du pôle employabilité chez Mosaïque RH.
Les candidats n'osent pas candidater sur certains postes, ou alors ils vont candidater sur des postes qui sont inférieurs à leur niveau de compétence. C'est vraiment un manque de confiance en soi.
Et certains vont même jusqu'à dissimuler leur adresse ou leur conviction religieuse pour présenter leur candidature.
Ce soir, l'équipe de France de football a rendez-vous avec le Chili au Stade Vélodrome. Match amical qui verra le retour d'Alexis Sanchez au Vélodrome. Lui qui a marqué 18 buts avec l'OM la saison passée, il a surtout marqué les esprits des supporters marseillais qui devraient lui réserver un accueil chaleureux, Florent Germain.
Oui, c'est un peu le monde à l'envers. Pendant que l'attaquant français Kylian Mbappé s'attend à être sifflé par le Vélodrome, son adversaire chilien Alexis Sanchez sera comme à la maison ce soir à Marseille. Il n'a laissé que de bons souvenirs aux supporters marseillais, comme Mathieu.
Sa grinta, ses buts, sa classe technique, il y a tout. C'est un grand regret. Qu'il soit parti, c'est vraiment un grand regret.
Le cas Alexis Sanchez a animé le mercato marseillais de l'été dernier. Pour une histoire de salaire ou de style de jeu, Alexis est finalement parti et Tony, supporter de l'OM, n'a pas compris.
Moi vraiment je trouvais que c'était un joueur complet comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à l'OM. Et moi quand j'ai vu la différence en plus de salaire entre Sanchez et Aubameyang, j'ai pas compris ce transfert.
Les Marseillais qui seront au Vélodrome ce soir pour France-Chili ne vont donc pas hésiter à applaudir Alexis Sanchez.
Moi je pense qu'il y a une ovation quand même parce qu'il nous a quand même fait une sacrée saison.
Il mérite des applaudissements sans trop en faire. Même si pour moi il aurait dû rester, il aurait peut-être pu lui aussi vouloir rester. C'est pour ça qu'il faut pas en faire trop non plus.
Je pense un super accueil. Hein. S'il veut revenir, on le reprend. Hein.
Et que l'on rassure Didier Deschamps, cela n'empêchera pas le Vélodrome de supporter à fond les Bleus ce soir.
Coup d'envoi du match à 21h sur RMC. Et puis, cela faisait plus de deux semaines que les plus fins limiers de la police montpellierenne étaient sur l'affaire. Le centre commercial de Polygone avait perdu son mouton décoratif star, une œuvre fleurie qui arborait les allées.
Un faux mouton, on est d'accord.
Un faux mouton. Ah oui, mais ça faisait un vrai bonheur pour les clients.
Qui a volé le mouton ?
Il y avait une vidéo qui avait été partagée par le Polygone sur Instagram où on voyait deux jeunes partir avec ce faux mouton. Une vidéo captée par les caméras de surveillance. On a vu une nouvelle vidéo publiée avec ces mêmes deux jeunes qui ont ramené le mouton deux semaines après l'appel. Voilà, pour retrouver le mouton star. Pris de remords, sans doute. Il y a même eu un petit mot laissé par l'un des deux malfrats avec son larcin. Il parle d'une soirée arrosée au cours de laquelle il n'a pas résisté à rendre sa liberté à cet animal en plastique. Bon. Animal qui revient avec une patte en moins quand même. Il y a eu un petit accident sur la route.
Mais bon, faut avouer, à moitié pardonné, le mouton est retrouvé. Nous voilà rassurés. Merci Thomas Stel. Pour ce journal à 5h09 sur RMC, on continue tous ensemble. Tiens, avec vous au 32-16, je vois Geoffrey qui nous appelle déjà depuis le Var. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Charles, bonjour Anaïs, vous allez bien ?
Bonjour Geoffrey.
Salut Geoffrey, vous êtes où Geoffrey ?
Alors là, actuellement, je suis pas loin de la Trinité, voilà.
Ok.
À Nice, voilà.
À Nice, et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Voilà, je suis chauffeur-livreur. Ok. Donc je livre les écoles, les EHPAD, voilà, tout ces...
Mais qu'est-ce que vous leur livrez ? C'est des repas du coup ?
Voilà, des repas, de l'alimentation, du sec, du surgelé.
Eh ben, je vous remercie.
On fait parce la petite tournée du matin, quoi.
Eh ben, c'est grâce à vous que les résidents des EHPAD, que les enfants vont manger aujourd'hui. Geoffrey, courageux du matin. Déjà sur la route, il fait quel temps, là, sur la Côte d'Azur, ce matin ?
Ah, bah, il est très pluvieux, hein. Pluvieux, pas mal de mistral, voilà, c'était prévu, hein. Le temps est un peu instable, mais bon, on le savait. Mais bon, ça fait du bien, un petit peu de pluie, là, on en a besoin, donc on va pas se plaindre.
Oui, ben, vous allez plus en avoir toute la journée, mais après, ça ira mieux.
Oui, voilà.
Oui, exactement.
Faut voir la suite. Et puis, non, mais c'est bien, Geoffrey. Géraldine a souri quand vous avez dit, mais c'est bien, on a besoin de pluie et tout.
Il y a, encore, vrai,
une,
ouais.
Il y a encore une dizaine d'années, on râlait quand il pleuvait, mais là, Geoffrey, on a pris les bons réflexes, on sait que c'est bon. C'est bon pour, en prévision de cet été, il faut remplir les nappes phréatiques, etc.
De la Méditerranée, oui, parce qu'ailleurs, c'est bon, on commence à en avoir assez. Hein.
Oui, c'est bon, nous, on a été servis à Paris en pluie ces derniers mois, mais vous avez raison, Geoffrey, c'est un peu sec là sur la moitié sud. Et puis, tiens, Geoffrey, j'en profite, comme vous êtes là ce matin, on prend le pouls au 32-16 après le passage de la France au plus haut degré de la menace, l'urgence attentat dans le plan Vigipirate. Est-ce que ça vous inquiète particulièrement ce climat, Geoffrey, ou pas ?
Oh, vous savez, après, c'est une bonne chose, hein, mais bon, non, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Hein, voilà, faut rester prudent. Malheureusement, on va vivre avec encore très, très longtemps. On va dire que c'est un combat qui va être très compliqué. Hein, pour nous, moi, j'ai été militaire pendant 20 ans, donc voilà, je sais ce que ça fait, voilà, ce
déclenchement du plan Vigipirate. Bon. Oui, de 4000 militaires supplémentaires potentiellement.
Voilà, c'est une bonne chose, mais bon, ça reste quand même, c'est très compliqué, très compliqué. Maintenant, c'est bien, il faut qu'on soit sur le terrain, il faut être prudent, voilà, mais voilà, sans rentrer dans la psychose, mais voilà, il faut rester conscient, voilà, qu'à chaque moment, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, et voilà, faut avoir les bons réflexes, mais surtout pas commencer à vivre dans la psychose et...
Oui, ne pas s'arrêter de vivre, tout simplement. Mais
voilà, prudent, exactement. Mais voilà, faut le prendre en compte. Voilà.
Prudent sans rentrer dans la psychose, je note.
Et c'est un bon message.
Geoffrey, ouais, voilà, c'est noté. On va vous souhaiter bon courage pour la matinée de livraison.
Je vous remercie, vous aussi.
On roule avec vous, on vous accompagne. Voilà, d'EHPAD en école toute la matinée sur la Côte d'Azur. Geoffrey, merci d'être passé nous saluer au 32-16. Excellent réflexe. Vous faites comme Geoffrey ce matin. Un petit coup de fil au 32-16 si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot, ou peut-être encore tranquille à la maison. N'hésitez pas, on partage un petit café tous ensemble, vous le savez, le matin sur RMC. Et on partage toute l'info avec vous, sans oublier qu'on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Eh oui, vous connaissez le principe, tous les matins, vous les lève-tôt, vous qui écoutez toute l'info sur RMC, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à une question d'actu.
Contre quelle équipe de foot joue la France ce soir au Stade Vélodrome à Marseille?
Ah, c'est facile, oui, c'est à 21h. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et vous pourrez gagner un Radio Réveil, dernier cri de la marque Muse.
Alors allez-y tout de suite, si vous savez contre quelle nation les Bleus jouent ce soir à 21h à Marseille, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC, police justice.
Oui, tous les matins, une histoire repérée, racontée par le service police-justice d'RMC. Ce matin, c'est avec vous, Lucille Pascanet. Bonjour, Lucille.
Bonjour, Charles. Bonjour, Géraldine. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et Lucille, ce matin, vous nous parlez de cette agente corrompue de la ville de Marseille, condamnée à de la prison ferme.
Oui, entre 2016 et 2019, cette femme de 52 ans travaillait au service des logements du 2e et du 3e arrondissement de la mairie de Marseille. C'est elle qui attribuait les logements sociaux de la ville. Et pendant 4 ans, elle en a profité pour obtenir des cadeaux et des pots de vin en échange de potentiels appartements. Pour mettre un dossier sur le dessus de la pile, elle réclamait entre 1000 et 2000 euros aux demandeurs de logements sociaux. Des personnes en grande précarité qui vivaient dans des logements insalubres, parfois avec des enfants handicapés et qui avaient absolument besoin de ces logements. C'est comme ça qu'en 4 ans, elle a encaissé plus de 40 000 euros de bakchich. À son procès le mois dernier, la juge l'a accusée d'avoir créé un système pour exploiter la précarité et la vulnérabilité de ses victimes dans un quartier de Marseille parmi les plus pauvres de France. L'ancienne agente, elle, se considère plutôt comme une femme de cœur. À la barre, elle a même revendiqué le surnom de Mère Teresa du 2e arrondissement. Elle a expliqué que si elle avait favorisé certains dossiers plutôt que d'autres, ce n'était que pour aider les gens par empathie. Elle n'a pas convaincu les juges. Ils l'ont condamnée à 2 ans et demi de prison ferme, étant donné, je cite, son rapport au mensonge et sa totale incompréhension du service public. D'autant que cette femme a continué d'escroquer des demandeurs même après avoir été écartée du service des logements en 2017. Elle ne payait plus son loyer depuis des années. Elle a assuré être tombée dans une spirale de surendettement.
Merci Lucille. Lucille Pascanet, reporter au sein du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Avons-nous les moyens de faire face à la menace terroriste? Depuis dimanche, nous sommes repassés au niveau maximal, urgence attentat du plan Vigipirate, hein, juste après l'attaque terroriste à Moscou et sa revendication par une branche de l'État islamique qui menace aussi notre pays. 4000 militaires supplémentaires sont depuis en alerte, affirme le Premier ministre. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire face à la menace? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous rassure? Avec les JO qui arrivent bientôt, hein, dans 4 mois seulement, racontez-nous comment vous vivez ce contexte actuel. Prudent, mais pas de psychose, nous disait Geoffrey à l'instant au 32-16. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, voilà, on est au bon niveau de prudence? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut et ça va bien se passer? Au contraire, est-ce que vous êtes particulièrement inquiet? Est-ce que cet attentat ce week-end et ce passage au niveau maximal de l'urgence attentat, est-ce que ça... Comment dire, ça a été une sorte de piqûre de rappel? Est-ce que ça a ravivé aussi de mauvais souvenirs, des réflexes qu'on avait peut-être oubliés? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert évidemment pour tous vos témoignages. Et puis tout de suite, c'est RMC qui s'engage avec vous. Solène Leroux vient en aide à la petite Emma, 5 ans. Elle est franco-chilienne, mais ça fait un an qu'elle attend de recevoir son passeport français. Vous allez l'entendre.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et vous l'avez entendu, là. T'as entendu, Géraldine, il y a eu l'alerte du coffre. Là. C'est parti.
Ouais.
Mais oui, vous avez 5 minutes pour jouer, pour envoyer coffre au 732-16 par SMS pour gagner 50 000 euros. Mais oui, il faut être attentif, ça tombe n'importe quand, même pendant la pub. Allez, 5h17 sur RMC, et c'est l'heure d'RMC s'engage.
Je pense que ça va peut-être retomber avant la fin de l'émission.
Mais oui, soyez attentifs.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Solène Leroux qui nous rejoint ce matin. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Ou plutôt, hola Solène.
Hola.
Parce que oui, aujourd'hui, vamos à Chile.
Oui, au Chili, pour venir en aide à la petite Emma. Elle va bientôt fêter ses 5 ans. Accrochez-vous bien, parce qu'on va faire un petit tour du globe. Son père, Mathieu, est français. Sa mère, Maria, est chilienne et allemande. Et leur fille est donc chilienne de sol et française de sang. Mais pour l'instant, elle n'a toujours pas de passeport tricolore et ça urge. La petite famille revient s'installer en Europe dans moins de 2 mois. Mathieu a transmis toutes les informations nécessaires à l'ambassade de France. Le délai normal, c'est 8 semaines pour inscrire Emma sur les registres donc de l'état civil français. Première étape avant de demander ses papiers. Ça va faire 1 an. Il n'y a
toujours rien.
J'ai reçu un mail me disant qu'il y avait du retard toujours dû au Covid. Moi, ça me fatigue. Un an pour un dossier de 12 pages, c'est épuisant. Et en plus, je veux bien qu'il y ait des problèmes avec la pandémie. Bon, on est en 2024, la pandémie s'est passée depuis quelques temps quand même. Enfin, à moins qu'il y ait 1 million de Français qui vivent au Chili et qui veulent tous rentrer en Europe, c'est quand même un peu long.
Non, mais c'est ubuesque là ce qu'on répond à Mathieu. Comment c'est possible, Solène ?
Eh ben, les aléas de l'administration française, oui. Sans doute, on les connaît. J'ai contacté l'ambassade de France au Chili pour comprendre. Et ben, j'ai toujours pas compris. Ah. Les délais importants dans ce dossier ne doivent pas faire perdre de vue les nombreux efforts effectués dans le cadre du projet du registre d'état civil électronique. Ça, c'est ce que nous dit une source diplomatique.
Ça s'appelle ne pas répondre.
Voilà. Il y a 3 ans, l'État a lancé cette fameuse dématérialisation dont il nous parle. Modernisation qui a justement pour objectif de simplifier et d'accélérer les démarches pour les usagers, à terme en tout cas.
Oui, on voit que c'est un grand succès pour l'instant, cette accélération des dossiers. Mais alors là, pour Emma, pour Mathieu, pour toute la petite famille, là, il faut tout recommencer à zéro ?
Eh bien heureusement, non, parce qu'on est passé par là. Quelques heures après mon mail à l'ambassade, donc l'acte de naissance d'Emma était enfin transcrit et envoyé aux parents.
Comme par magie.
Voilà, l'histoire ne dit pas pourquoi ce dossier de 12 petites pages, hein, je le rappelle, est resté bloqué dans les limbes de l'administration, mais l'essentiel. Et là, la famille a rendez-vous dans 10 jours là, pour la demande de passeport avec un délai annoncé de 5 semaines. Bon, oui. On espère cette fois qu'il sera tenu.
Eh ben, on espère, et puis surtout que Mathieu, Maria et Emma vont pouvoir venir s'installer tranquillement en France, ils vous remercient.
En Espagne d'ailleurs, mais oui.
C'est ah, en Europe, pardon, oui, on voilà. L'avait dit. Mais en tout cas, voilà, la petite Emma aura donc son passeport français grâce à vous, en partie, et grâce à toute l'équipe d'RMC S'engage autour d'Amélie Rosic. On rappelle d'ailleurs l'adresse pour vous contacter, Solène, c'est ce mail RMC avec vous à rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
Nous déjouons beaucoup d'attentats en France, un tous les 2 mois, organisés. La menace est forte, mais on n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme, et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'était hier soir sur le plateau de France 2. 2 projets d'attentats déjoués en France depuis le mois de janvier. En tout, on parle de 45 projets d'attentats arrêtés à temps par les forces de l'ordre depuis 2017. Et donc, vous le savez, depuis dimanche, nous sommes repassés au niveau maximal du plan Vigipirate.
Un contexte évidemment anxiogène, surtout que dans 4 mois, on accueille les JO. Le Premier ministre a annoncé que 4000 militaires supplémentaires étaient en alerte, mobilisables à tout moment.
Alors, est-ce que ces grands moyens déployés, est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que ça vous inquiète ? Quel est votre sentiment ce matin face à cette menace ? Et puis évidemment, oui, c'est JO qui approche. Est-ce qu'on sera en mesure de les assurer, de les sécuriser ? Tiens, je vois Philippe qui veut réagir ce matin depuis l'un. Ah bah ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Philippe. Comment ça va, Philippe ?
Bah, bonjour à vous, toute l'équipe.
Salut Philippe,
bienvenue de bon matin au 32-16. Bah tiens, alors Philippe, cette menace terroriste qui pèse sur la France à 4 mois des JO, ce niveau maximal du plan Vigipirate, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous rassure, Philippe ?
Alors, je viendrai tout de suite après. Par contre, je voudrais faire un tout petit message avant sur les gens qui se posent la question pourquoi je suis pas encore arrivé aux grandes gueules. C'est parce que j'attends toujours l'invitation d'Anaïs Stent, qui n'arrive pas, alors que tu avais dit à l'antenne.
Ah bah alors, je lui transmettrai, Philippe, c'est promis. Mais voilà. Venons-en à l'actu.
Revenons en actu, oui. De toute façon, on pourra faire ce qu'on veut. On n'arrivera jamais à empêcher tous ces marteaux d'intervenir s'ils ont envie de le faire.
Philippe, donc, si. Excusez-moi, mais on peut pas nier le travail de la police, des renseignements. Quand on voit le nombre de projets d'attentats déjoués depuis des années, il y en a encore eu 2 depuis le début de l'année. C'est la preuve qu'on sait faire. On sait.
Non, je pense que notre pays est devenu une telle passoire. Ça rentre et ça sort comme ça veut. Quoi. Non, le jour où ils voudront vraiment intervenir, on n'y arrivera pas.
Bah, Philippe, alors on va pas.
Il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Je rejoins l'auditeur d'avant. Il faut vivre avec. Il faut pas en faire une psychose. Il faut être un peu observateur, essayer de faire attention. Mais
il faut être vigilant. C'est ça qu'on retient. Mais
il n'y a pas de risque zéro, ça c'est sûr.
Oui. Tout à fait. Voilà.
Il n'y a pas de risque zéro, mais ça n'empêche pas, Philippe, que c'est justifié là de déployer les grands moyens. Ça sert. On voit bien que c'est efficace d'un point de vue renseignement. Est-ce que c'est aussi important pour vous, voilà, qu'on déploie des militaires, hein, c'est ça, Vigipirate, hein, c'est ces militaires que vous voyez dans les grands rassemblements, dans les lieux publics, dans les gares, etc.
Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi, dans certains pays, à intervenir militairement parlant, pour un peu éradiquer
alors on va pas rentrer dans le débat entre la menace endogène, etc. Mais en effet, Philippe, il y a plusieurs fronts. Il y a la diplomatie, il y a ce qui se passe au niveau mondial, et puis il y a le fait de sécuriser le territoire. Aujourd'hui, on déploie les grands moyens. On est à 4 mois des JO. L'idée aussi, c'est est-ce qu'on peut tenir à ce niveau d'alerte pendant des mois, parce qu'on mobilise aussi beaucoup d'hommes. On parle de 4000 militaires là, potentiellement mobilisés dans les semaines et les mois qui viennent. Les JO qui approchent, alors évidemment, ça inquiète. Et on entend, Philippe, une forme de fatalisme, de le risque zéro n'existe pas.
Ah bah vous
Vous dites, si ça doit arriver, ça arrivera. En effet, il n'y a pas de risque zéro.
C'est pas du fatalisme, c'est du constat.
Oui, c'est votre constat, Philippe. En tout cas, je l'entends tout à fait ce matin. Après, j'entends aussi que vous nous dites, bah oui, mais il faut être vigilant. C'est à chacun aussi, peut-être à son échelle, d'être vigilant, évidemment, autour de soi. On va continuer à en débattre ce matin. C'est intéressant d'avoir votre sentiment. Vous, Philippe, vous nous dites, mon constat, c'est que voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Tout à l'heure, Geoffrey nous disait, moi, je suis, inquiet, mais faut pas tomber dans la psychose. Voilà, c'est important de continuer à vivre et de pas trop s'inquiéter. Est-ce que vous faites confiance aussi au gouvernement, aux forces de l'ordre, évidemment, pour gérer cette menace? On va continuer en débat. Je vous remercie, Philippe, d'être passé ce matin à nous faire un petit coucou au 32-16. Vous faites comme Philippe, comme Geoffrey ce matin. On continue à vous écouter, à prendre le pouls, en fait, des Français à travers vous au 32-16 ce matin. Votre sentiment face à ce niveau maximal du plan Vigipirate, cette menace terroriste qui pèse sur la France à 4 mois des JO. Vous connaissez le chemin, c'est le 32-16.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, évidemment, votre journal de 5h30 qui approche. Vous allez entendre comment, justement, cette menace terroriste pèse sur la préparation des JO. Et puis ensuite, à 5h40, vous avez rendez-vous avec toute la bande. Évidemment, Alex Biggerstaff va arriver pour nous raconter, tiens, cette image incroyable hier, cette superstar du foot qui a fondu en larmes en conférence de presse, usée par le racisme. On vous raconte tout ça dans la story sport. Mélinda Davansoulas, qui remplace Anthony Morel pour C'est déjà demain, elle va nous livrer des repas grâce à des drones. Et puis tout de suite, Géraldine, on parle pouvoir d'achat, c'est ta solution conso.
Bah tiens, on va faire un petit quiz pour voir si vous avez les bons réflexes pour faire des économies d'énergie.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin.
Charles Magnin.
5h26 sur RMC, votre rendez-vous pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Avec Géraldine, et ce matin avec toi Géraldine, on va faire le tour des idées reçues sur les économies d'énergie. Quels sont les gestes utiles et ceux qui au contraire peuvent coûter très cher?
Bah ouais, je te propose qu'il y a un petit quiz. Alors tout le monde peut jouer, on va voir si vous avez les bons réflexes. Il suffit de répondre par vrai ou par faux. Un ordinateur portable consomme plus qu'un ordinateur fixe. Le portable plus que le fixe.
Non, je pense que c'est le fixe qui consomme le plus, non?
C'est exactement, c'est ça. C'est le fixe qui consomme le plus parce que l'ordinateur portable consomme 3 fois moins qu'un ordinateur fixe. Dans tous les cas, à partir de 30 minutes sans l'utiliser, on l'arrête complètement, on ne le laisse pas en veille. C'est d'ailleurs valable pour tous les appareils comme la télé ou la box internet. Ça représente quand même jusqu'à 100 euros d'économie par an, d'éteindre plutôt que de laisser en veille.
Les appareils en veille, la télé, l'ordinateur, etc. Jamais de veille.
Une box internet consomme autant qu'un frigo.
Ah non, le frigo ça consomme pour produire du froid.
Et bah ça consomme, oui, mais la box internet aussi, c'est vrai.
Ah oui,
c'est la même consommation pour les deux. En tout cas, justement, si vous laissez votre box allumée tout le temps, d'où l'intérêt de l'arrêter de temps
soir,
en temps,
ouais,
parce que ça fait partie des appareils qui consomment le plus d'électricité à la maison.
Et comme ça, vous êtes sûr que les ados n'ont pas le wifi dans leur chambre.
En plus, c'est pas mal. Le cycle rapide de la machine à laver est le plus économique.
Ah bah non, c'est le cycle économique le plus économique.
Et bah oui.
Ah merci. Il y avait un indice dans le nom.
Ce qui compte, c'est la température de l'eau. Il vaut mieux un cycle long avec une eau à 30 degrés qu'un cycle court plus chaud. Donc c'est pour ça que le cycle éco, effectivement, il est généralement long, mais c'est celui qu'il faut privilégier. La nuit, j'éteins le chauffage.
Oui, ou en tout cas, je le baisse fortement.
C'est ça, on ne l'éteint pas, mais on le baisse, parce que si tu l'éteins complètement, au moment de le rallumer, il va falloir plus de puissance pour réchauffer la pièce, donc ça coûtera au final plus cher que de le laisser allumer un peu plus bas. Tiens, en ce moment, je garde les fenêtres fermées pour ne pas laisser rentrer le froid.
Ah, il faut aérer au moins 10 minutes, non, par
exactement,
jour,
parce que pour des raisons sanitaires, mais aussi parce qu'aérer va permettre de chasser l'humidité et un air plus sec sera plus rapide à chauffer. Une petite dernière, pour cuisiner, c'est plus économique de chauffer l'eau avec une bouilloire électrique qu'avec une casserole.
Bon débat, je dirais la casserole recouverte, non?
La casserole recouverte, c'est pas mal, mais le mieux, ça reste la bouilloire.
Bien que j'ai une erreur.
Ouais, c'est pas mal. Et si c'est juste une tasse d'eau, en revanche, le moins énergivore, là, ce sera le micro-ondes.
Ah, la tasse d'eau au micro-ondes, la bouilloire si on veut faire cuire des pâtes quoi,
voilà.
Clairement.
Bravo Charles.
Ouais, je suis pas si mauvais, mais je peux progresser, tu vois, j'avais pas le coup de la bouilloire. On en apprend tous les matins grâce à la solution conso de Géraldine. Et évidemment, c'est à retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et à 5h29, c'est l'heure de notre petit bonbon du matin, notre petit sourire, notre petit plaisir avec Arnaud Demanche. Tous les matins, le meilleur d'Arnaud. Tiens, hier, Arnaud s'est glissé dans la peau de Bruno Le Maire.
Bonjour, c'est Bruno Le Maire. Grâce au régime, comme j'aime pas, je vous aide à perdre 20 milliards. Comme j'aime pas donner des aides aux pauvres, je les donne plus. Comme j'aime pas faire payer les riches, je taxe pas les super profits. Et ça marche. Regardez, en 15 jours, j'ai déjà perdu toutes mes chances d'être élu en 2027. Alors, inscrivez-vous. Vous n'avez plus rien à perdre, vous êtes déjà pauvre. Venez faire votre devis en ligne sur commejaimepas.impots.gouv.fr et laissez-nous vous aider à perdre tout ce qui vous reste.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct, évidemment, dans Apolline Matin. RMC 5h30.
RMC Charles Matin.
Bon réveil à tous sur RMC. Toute l'info en direct le matin. C'est votre journal présenté par Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'attentat de Moscou provoque une onde de choc jusqu'à Paris. Face à la menace d'attentat en France, la sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques devient un enjeu crucial. Jusqu'où ira le dérapage du déficit public? Les chiffres de l'INSEE risquent d'avoir l'effet d'un coup de massue. Et puis il y a du foot ce soir. France-Chili, match amical au Vélodrome.
Le rehaussement du plan Vigipirate pose de nouveau la question de la sécurité lors des Jeux Olympiques.
La France déploie des moyens exceptionnels pour éloigner le spectre d'une attaque terroriste. Face à la menace, le plan Vigipirate est porté à son niveau le plus élevé. Sur le terrain, cela va se traduire par la possibilité de mobiliser 4000 militaires. Et pour le moment, l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques reste inchangée, Nicolas Pelletier.
Et depuis le début, les services de l'État travaillent sur le pire scénario possible autour de ces JO. La menace terroriste n'a jamais faibli, il faut le garder en tête, commente un proche de l'organisation. Depuis plusieurs semaines, ce sont surtout les alertes cyber et les tentatives de désinformation autour de ces Jeux qui rythment les remontées du terrain. Et dès le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme à Marseille, la pression va augmenter d'un cran, car tout le monde connaît le chemin avec précision et des horaires définis. Le pire scénario, explique ce responsable policier. Le centre de renseignement olympique tourne à plein régime, les criblages des accrédités s'enchaînent. 10 fichiers S ont par exemple été écartés de l'organisation. Et si la menace est forte à l'approche de l'événement, la jauge de la cérémonie d'ouverture pourrait une nouvelle fois baisser. Il suffit pour les services de l'État de désactiver le QR code de certains invités.
Et justement, n'hésitez pas ce matin à venir témoigner au 32-16 parce qu'il y a cette menace terroriste, ce niveau maximum du plan Vigipirate. Mais il y a évidemment la perspective des JO. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que la France sera prête? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert.
En Russie, trois jours après l'attaque qui a fait 139 morts selon le bilan, Vladimir Poutine reconnaît que les assaillants sont bien des islamistes radicaux, mais le président russe persiste sur un prétendu lien avec l'Ukraine.
Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux. Nous voyons également que les États-Unis essayent de convaincre d'autres pays du monde qu'il n'y a pas de traces de Kiev dans cet acte de terrorisme. Cette atrocité pourrait être le maillon d'une chaîne de tentatives de la part de ceux qui sont en guerre contre notre pays depuis 2014 par l'intermédiaire du régime néo-nazi de Kiev. Et les nazis, comme on le sait, n'ont jamais hésité à utiliser les moyens les plus sales et les plus inhumains pour parvenir à leur fin.
C'est une première depuis les attaques du 7 octobre. Une résolution votée par le Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu à Gaza grâce à l'abstention des États-Unis. Même si ces résolutions sont contraignantes, elles sont régulièrement ignorées par les pays concernés. La France a décidément beaucoup de mal à faire des économies. On connaîtra à 7h30 l'ampleur du dérapage du déficit public qui devrait largement dépasser les 5% et bouleverser la trajectoire du désendettement de la France. Pour trouver de nouvelles économies, le gouvernement veut durcir encore l'assurance chômage alors même que les partenaires sociaux négocient en ce moment sur l'emploi des seniors. Victor Joannin.
Oui, c'est la 13e réunion et les partenaires sociaux n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur un texte. Mais sans attendre la conclusion de ces négociations prévues dans deux semaines, plusieurs voix gouvernementales affichent leurs intentions. Au ministère du Travail, Catherine Vautrin soutient l'idée du MEDEF de créer un CDI fin de carrière pour encourager la reprise d'emploi des seniors. À Bercy, Bruno Le Maire lui plaide pour réduire la durée d'indemnisation pour tous. Des interférences nocives, répondent les partenaires sociaux, pour le coup unanimes. Le gouvernement s'acharne à baisser les droits des chômeurs, regrette le négociateur de la CGT, alors qu'un responsable patronal dénonce une fébrilité qui conduit le gouvernement à piocher dans les comptes de l'assurance chômage. Syndicats et chefs d'entreprise y voient surtout la volonté de l'État de gérer à leur place la protection sociale. Or, rien ne dit qu'il serait plus efficace, critique le numéro 1 du MEDEF.
C'était il y a 8 ans, des inondations meurtrières dans les Alpes-Maritimes avaient provoqué la mort de 3 résidentes d'un EHPAD de Biot, retrouvé noyé. Hier, le propriétaire du site Orpea a été relaxé. Décision qui provoque la colère des familles de victimes, Julie Brault.
Oui, plus de 8 ans après le drame, l'ancienne maire de la commune a été reconnue coupable d'homicide involontaire, condamnée à 1 an de prison avec sursis. La justice a estimé qu'elle n'avait pas appliqué son plan communal de sauvegarde, un dispositif qui aurait pu permettre d'alerter les habitants de ces violentes inondations. De son côté, le groupe Orpea lui a été relaxé. Une décision incompréhensible, dénonce David Delhaupe. La grand-mère de sa femme est morte dans cet EHPAD.
Quand on est au sein d'un EHPAD, qu'on voit qu'on est en alerte orange, et sachant, je le répète, que cet EHPAD avait été inondé à maintes reprises. Ben, on prend les dispositions. C'était si simple de monter des pensionnaires à l'étage. Ce drame atroce de 3 personnes mortes noyées dans des conditions où elles n'ont même pas pu se défendre, n'ont même pas pu agir. Ça, c'est intolérable.
Désormais, le parquet de Grasse a 10 jours pour faire appel de la décision, un appel auquel s'accrochent les familles des 3 victimes mortes noyées au rez-de-chaussée de cet EHPAD.
1,66€ du vin à 1,66€ la bouteille. C'est ce qu'ont constaté certains clients de supermarché Carrefour dans le sud-ouest. Vin de Bordeaux, comte de Mégnac, c'est l'intitulé. Moins cher encore que la sangria. Un massacre, dénonce la FNSEA de Gironde. Moins de 2€ la bouteille, ça surprend même les clients. Martin Bourdin est allé leur demander s'ils pourraient se laisser tenter.
Ses courses à peine terminées, Pierre-Eugène découvre cette offre sur son téléphone et il est à 2 doigts de retourner dans le magasin vérifier s'il trouve l'une de ses bouteilles de vin à 1,66€.
Si je tombe dessus, je pourrais l'acheter. Et au pire, vous l'utilisez pour faire à manger et puis voilà. Hein.
C'est vrai que quand on regarde le visuel de cette bouteille de Bordeaux, on a vite fait de se laisser séduire, sourit Julia.
On dirait que c'est un vin d'un domaine, d'un château ou autre, donc on pourrait penser que. Mais 1,66€, une bouteille de vin, c'est même en dessous des premières bouteilles de vin quand on était ado, quoi. Donc non, j'aurais pas trop tendance à acheter ce vin-là.
Des vins de l'appellation Bordeaux et Wen-Lemoigne aussi en vend dans sa cave.
Ouais, on le vend 10 fois ça, ouais.
Et à 1,66€ la bouteille, d'après lui, impossible pour les vignerons de s'y retrouver.
Pour moi, c'est le prix de la matière sèche. Sur la place de Bordeaux, les négociants négocient au plus bas à 66 centimes du litre. Il faut qu'il paye sa bouteille, son bouchon, son étiquette, le carton, ses ouvriers, sa mise en bouteille. Vendre des vins à ces prix-là, c'est qu'il y a un problème.
Ce qui inquiète aussi les vignerons bordelais, c'est que ces prix dévalorisent la marque.
Parce qu'elles sont pas chères, alors je me dis que c'est pas très bon.
Carrefour, de son côté, défend une opération commerciale financée entièrement par sa maison de négoce et qui n'affecte pas la rémunération des viticulteurs.
Ouais, à vérifier, hein, le reportage de Martin Bourdin. Bah, dites-nous ce matin au 32-16, tiens, cette bouteille, ce Bordeaux, nous dit-on, à 1,66€ la bouteille, est-ce que vous iriez l'acheter ou pas? Voilà, vous êtes vigneron aussi, peut-être n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. On va y revenir tout à l'heure à 6h20 avec un spécialiste s'il en est, Manu Le Chypre, tout à l'heure dans Manu Conso, qui a enquêté sur cette bouteille à 1,66€, ce vin à 1,66€, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter et à le consommer avec modération, évidemment, il faut toujours le dire. N'hésitez pas, on peut en parler aussi au 32-16.
L'équipe de France de football affronte ce soir le Chili au Stade Vélodrome, match amical. Après la défaite samedi face à l'Allemagne, même le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a reconnu que les leaders, lui compris, avaient été défaillants sur le terrain. On verra ça ce soir, coup d'envoi à 21h, France-Chili, c'est à vivre sur RMC.
Oui, ce sera au Vélodrome ce soir, il faut se rattraper après le mauvais pas face à l'Allemagne. Et on l'a promis à 5h pour les Leftos qui l'attendent depuis tout à l'heure, le pronostic de Géraldine Domori. C'est maintenant à 5h38, France-Chili ce soir, Géraldine.
Bah 3-0 pour la France.
Allez, et Thomas Chenel partage le...
Ah, moi je dis 2-1, ça va pas être aussi facile
un
que ça.
Un peu plus serré, ouais, moi je suis sur un 2-0, un peu plus modeste, mais on voit tous les trois une victoire des Bleus, en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Et puis ce qu'on a aussi, ce sont les pronostics des courses. Le quintet aujourd'hui, ce sera du côté de Saint-Cloud, 13h55.
Et le pronostic donc de la Dream Team RMC, c'est le numéro 8 pour le favori, numéro 8 Concerto, l'outsider numéro 7 Winterland, le 8 et le 7. Les courses c'est à vivre sur RMC Découverte.
C'est bien noté, c'était le journal de Thomas Chenel à 5h38 sur RMC. Tiens, on va aller faire un tour sur Direct Studio, voir si les leftos sont déjà là, Géraldine.
Sommes-nous prêts face à la menace d'attentat? Eh bien, vous êtes très très nombreux à réagir. Anne-Laure nous dit qu'il faut qu'on soit très prudent, mais que ça ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre et surtout d'organiser des événements comme les Jeux Olympiques. Yacine n'est pas particulièrement inquiet, il fait confiance aux renseignements français et aux forces de police et militaires déployées sur tout le territoire. Romain, lui, est plus pessimiste, il pense qu'on n'est pas prêt pour les JO. On va être débordé et qu'il va falloir être très vigilant d'ici là.
Eh bien, vous continuez à réagir évidemment sur l'appli RMC, mais aussi au 32-16. Et puis, vous n'oubliez pas qu'on joue tous les matins.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et oui, tous les matins, une question d'actu pour récompenser les leftos. Alors attention, il faut avoir la réponse. Quelle est la question ce matin, Géraldine?
Contre quelle équipe de foot joue la France ce soir au stade Vélodrome à Marseille?
Ah,
c'est le plus facile,
mardi, hein. Bon, Géraldine nous dit qu'on va les battre 3-0. Voilà, je peux pas vous donner plus d'indices, on vient d'en parler. Vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite Actu par SMS au 732-16.
Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un Radio Réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec Charles Matin.
Voilà, si vous savez contre qui jouent les Bleus ce soir au Vélodrome à Marseille, vous envoyez Actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platine vinyle et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
Les indiscrets RMC.
Vous voyez, chaque matin, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actu. On retrouve Sébastien Krebs du service politique. Bonjour Sébastien.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Et ce matin, Sébastien, vous nous racontez le changement de formule pour les questions au gouvernement qui ont lieu, on le sait, chaque semaine à l'Assemblée. Elles pourraient devenir les questions au Premier ministre.
Oui, Gabriel Attal, seul au front pour répondre à toutes les questions sur tous les sujets. Voilà la formule imaginée pour tenter de redonner de l'attrait et de la visibilité médiatique aux fameuses questions au gouvernement. Aujourd'hui, le mardi et le mercredi, les ministres répondent chacun sur leur sujet. Bien, l'idée, ce serait de réserver la séance du mercredi à des questions uniquement adressé au Premier ministre. La formule a été proposée par la présidente de l'Assemblée à Gabriel Attal, qui s'y montre favorable, contrairement à Elisabeth Borne qui avait écarté l'idée il y a quelques mois. À Matignon, on veut prendre exemple sur le modèle britannique, la tradition du question time. Le chef du gouvernement face aux députés. Les autres ministres continueraient à répondre le mardi. Les présidents des différents groupes parlementaires seront consultés cet après-midi. Et dans les oppositions, bien, on ne voit pas tellement d'obstacles à cette nouvelle formule. La droite y est favorable, le RN aussi. À gauche, socialistes et insoumis doivent consulter leurs troupes, mais plusieurs élus contactés bien, n'y voient pas vraiment de problème, même si ça va être l'Attal show, ironise un député. Difficile de s'opposer à l'idée que le Premier ministre vienne répondre. Oui, il va faire de la com, dit un autre, mais attention à l'effet déceptif si les réponses sont creuses. Le constat partagé, y compris dans la majorité, c'est surtout que cela ne peut que remplir l'hémicycle, dont tout le monde voit bien qu'il est de plus en plus déserté ces dernières semaines.
Indiscret, signé Sébastien Krebs du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h42, ça y est, vous les attendez, ils sont là, la Dream Team de l'info, la bande de Charles Matin réunie autour de la table. Alex Biggerstaff pour la Story Sport.
Salut tout le monde. On va revenir sur une scène très rare de conférence de presse. La star brésilienne du Real Madrid, Vinicius, a fondu en larmes hier. En cause, le racisme, encore et toujours.
Elle a enfilé le costume d'Anthony Morel pour C'est déjà demain. C'est Mélinda d'Avansoulas qui est là aussi.
Hello tout le monde. Et moi, je vais vous livrer vos burgers dans votre jardin.
Très bien.
Dès le matin.
Il faut qu'il fasse beau. Et puis Géraldine, le bonus.
Qui sont les personnalités préférées des enfants? Je vous donne tout le classement.
Ah, j'ai une petite idée. On va aller à Marseille, non?
Possible.
Avec un chanteur. Voilà, j'ai un petit indice. Et puis tout de suite, on va accueillir Anthony, tiens, au 32-16. Il veut réagir sur la question de la menace terroriste. Est-ce que ça l'inquiète? Est-ce que ça le rassure, ce plan Vigipirate au niveau maximal? On lui pose la question. Il rejoint la bande dans un instant au 32-16.
RMC. Charles Matin.
Charles Magnin.
Allez, 6h moins le quart sur RMC et toute votre bande réunie. Le meilleur petit-déj de France. Oui, j'ose le dire, grâce à la Dream Team réunie autour de la table. Mélinda d'Avansoulas, qui justement va vous livrer votre petit-déj par drone, c'est ça, dans un instant. Avec Alex Biggerstaff, on va revenir sur cette image très forte hier du Brésilien Vinicius en larmes en conférence de presse. Avec Géraldine, on va aussi s'intéresser aux idoles des jeunes, on peut le dire comme ça, les stars préférées des enfants. Mais tout de suite, notre star, c'est Anthony, qui vient de composer le 32-16. Bonjour Anthony.
Bonjour Géraldine, Mélinda, Charles, Alex, un plaisir de vous retrouver.
Bonjour Anthony.
Bonjour
Anthony, ça me fait plaisir. Une coque pour smartphone RMC qui part tout de suite chez vous, parce que là, cette arrivée en fanfare est magnifique. Le grand chelem des prénoms. Bravo Anthony. Vous vous installez avec nous autour de la table, ce qui vous a fait réagir. Vous êtes du côté de Nevers, c'est ça, on est dans la Nièvre.
Je viens de couler le premier café, un plaisir.
Et voilà, le premier café, on le partage ensemble sur RMC le matin avec vous Anthony. Et cette question depuis ce matin de la menace d'attentat qui pèse sur la France, le plan Vigipirate relevé à son niveau maximum, est-ce que ça vous rassure là, qu'on déploie les grands moyens? Est-ce que ça vous inquiète en prévision des JO, Anthony?
Je suis ni rassuré ni effrayé. C'est un peu comme quand je traverse la route, j'essaie de faire attention. Je sais qu'il y en a qui font attention aux piétons et je sais qu'il y en a qui roulent à fond. Donc, comme tous les jours, je vais rester sur mes gardes et on va essayer de faire attention un petit peu tous les jours.
Oui, mais on dit comme tous les jours, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de piqûre de rappel là entre les images forcément de Moscou qui rappellent des souvenirs du Bataclan? Ça ravive des choses. Est-ce que le fait que le gouvernement, l'exécutif communique beaucoup sur le fait qu'on met en place beaucoup de sécurité là depuis deux jours, qu'on relève le niveau de vigilance, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi, on fait passer le message aux Français, soyons tous vigilants?
Ah oui, bien sûr, il faut toujours rester vigilant, mais cependant, ça va pas m'empêcher de prendre mes places de concert, mes places de spectacle. Je continuerai à vivre, d'aller au cinéma, et je resterai sur mes gardes comme d'habitude, en essayant de suspecter le moindre comportement suspect et d'avertir si besoin.
Oui, prudent, mais pas de psychose. C'est aussi ce que nous disait Geoffrey tout à l'heure au 32-16. Ouais, mais alors justement, Anthony, je vous pose la question qui fâche. En prévision des JO, est-ce qu'il faut réduire la voilure, cette cérémonie d'ouverture à très très haut risque? Est-ce qu'il faut se dire, comme vous le dites, on va pas arrêter de vivre, on va pas s'empêcher d'organiser une très belle cérémonie? Ou au contraire, vous dites, vu l'ampleur du risque, il faut revoir un peu les ambitions à la baisse sur cette cérémonie d'ouverture?
J'ai envie de dire que si le gouvernement dit que tout va bien se passer, il y a moyen de s'inquiéter.
Ah, voilà. Ouais, la confiance dans la parole publique, est un peu écornée. On l'entend avec vous, Anthony. Bon, on verra comment ça se passe, évidemment, mais ça va forcément faire débat dans les semaines qui viennent, en fonction aussi de l'état des troupes, parce qu'il faut avoir aussi les policiers, les militaires auxquels on pense qui sont déployés. Et ça dure depuis des années maintenant, et c'est encore loin, les JO. C'est très près et très loin à la fois, s'il y a encore 4 mois à tenir au niveau maximal. C'est demain, mais c'est aussi tous les jours pour les policiers, pour les militaires de la mission Sentinelle. On va suivre ça.
Ça veut dire des congés qui sautent, ça veut dire des heures sup.
Exactement, c'est aussi d'ailleurs n'hésitez pas, vous êtes membre des forces de l'ordre, vous êtes alors militaire, théoriquement vous n'avez pas le droit de parler, mais ancien militaire, on peut aussi changer votre prénom au 32-16, vous venez témoigner, vous faites comme Anthony, vous venez vous asseoir quand vous voulez, partager le premier café de la matinée avec nous au 32-16. Et puis alors tiens Anthony, pour agrémenter votre café, j'ai plein de petites viennoiseries, enfin plein de petites infos, voilà, qu'on va partager avec vous. Et d'abord Anthony, tiens, on va parler d'une image terrible, une scène très rare en conférence de presse hier. On sait alors la France va affronter, je vous le dis, le Chili, ce soir à Marseille, je fais passer le message. Mais il y a aussi le Brésil, autre match prestigieux, le Brésil qui va affronter en amical l'Espagne. Et la star brésilienne du Real, Vinicius, était interrogé hier en conférence de presse sur les nombreux incidents racistes qu'il a subis ces derniers mois. Et il a, Alex, fondu en larmes.
Scène très forte en conférence de presse, car très, très rare. Et cette séquence montre beaucoup de choses. D'abord, écoutons-la. Visualisez Vinicius, les bras croisés, un regard de dépit. Et il répond donc à une question avant de s'arrêter.
Je vais au match en pensant au jeu pour donner le meilleur à mon équipe, mais ce n'est pas toujours possible. Je dois donc me concentrer au quotidien. Je veux juste jouer au foot, faire tout mon possible pour mon équipe et ma famille.
Applaudissements des journalistes présents dans la salle. Eux savent, eux sont les premiers témoins à chaque journée de championnat espagnol du mal-être de ce garçon de 23 ans.
Oui, d'où ce Vinicius qui craque hier en fait en conférence de presse, qui fond en larmes. Il faut rappeler qu'il est arrivé à Madrid à l'âge de 18 ans en 2018 et depuis en fait c'est une accumulation d'incidents racistes à son encontre.
Et pour se rendre compte de l'horreur qui persiste dans la durée, voici un extrait de l'After Foot. Il y a quasiment un an, Nicolas Jamin entame son émission.
Hier donc, Valence-Real Madrid. Vinicius encore victime d'insultes racistes. Le traditionnel mono, traduction singe, qui descend des tribunes. Et non, il ne s'agit pas d'un seul individu, mais de plusieurs dizaines. Immense vague d'émotion, Fred, en Espagne. Avalanche inédite de réactions, de soutien aussi, de Mbappé à Rio Ferdinand, Neymar. On espère en tout cas que c'est la goutte d'eau.
Oui, on espère que c'est la goutte d'eau. C'était il y a un an. Ouais. Des cris de singe au stade, des moqueries dans les émissions de télé, les insultes sur les réseaux sociaux, la volonté de le voir mourir. Vinicius muérete, Vinicius meurt. C'est chanté dans les rues de Barcelone, le club rival. Qu'est-ce que ce garçon fait alors depuis?
Il dénonce et il continue de dénoncer évidemment ses comportements, ses insultes, ses mots racistes. Mais certains arrivent même à lui reprocher aujourd'hui de dénoncer. Certains disent qu'il en ferait trop.
Et oui, on a aujourd'hui un garçon de 23 ans qui est usé, lassé de jouer au foot. Il fond en larmes. C'est une scène marquante, mais on ne peut pas être étonné. Doit-on vraiment rappeler qu'un footballeur, en fait, ne pleure pas seulement quand il gagne ou quand il perd? Non, un humain pleure quand il peut pleurer. Il y a un an, il avait le soutien d'un tel et d'un tel. Mais entre-temps, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui a changé? La lutte contre le racisme, en fait, c'est un combat sans horloge, sans mi-temps. C'est un match qui ne finit jamais. Alors oui, Vinicius, tu as le droit de pleurer. Et j'espère que tu vas rester sur les pelouses, sur les terrains. Car dans cette lutte, mon cher, tu es un titulaire indiscutable.
Mais oui, c'est devenu un des meilleurs joueurs de la planète. Il faut le rappeler, c'est une superstar. Et le foot, c'est sa vie. Et on en arrive au stade où ce joueur, qui est l'un des meilleurs de la planète, n'a plus envie de jouer au foot. Il a à peine 23 ans. C'est un gamin.
Il a à peine 23 ans. Et on en est étonné de voir, en fait, un footballeur pleurer pour quelque chose qui arrive en fait tous les jours.
C'est humain,
mais on ne le voit pas assez souvent en fait.
Mais c'est surtout révélateur de ce qu'il subit depuis des années. Et donc Je vais paraphraser Nicolas Jamin, on espère, mais alors on est de moins en moins naïf sur le fait que ce soit la goutte d'eau et que ça s'arrête pour Vinicius, mais c'était une image impressionnante hier, voilà, un moment d'humanité, on va le dire comme ça, en conférence de presse pour Vinicius, et on continuera évidemment à suivre son parcours, le Brésil qui affronte l'Espagne ce soir en match amical, mais nous on va surtout suivre les Bleus face au Chili, ce soir je vous rappelle le pronostic de Géraldine, 3-0 pour les Bleus. Oui, oui Géraldine, j'ai bien noté, hein. Demain je vais te chambrer s'il n'y a pas 3-0, c'est le principe. Allez, maintenant on va se faire peut-être livrer notre burger ce soir pendant qu'on regarde le match. Avec Mélinda d'Avance-Soulas dans C'est déjà demain. Mélinda, on connaît les livraisons en voiture, à moto, à vélo pour aller vite. Et maintenant, on pourrait aussi se faire livrer par drone.
Et oui, ouvrir la porte, parler au livreur. Mais pourquoi tant d'efforts en fait ? Alors, on pourrait juste recevoir directement son burger frites dans son jardin, allongé sur son transat. Alors, aux États-Unis, le service de livraison de nourriture DoorDash s'est dit que ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Il s'est donc associé à la chaîne de fast-food Wendy's pour lancer son programme. Ce sont les habitants de Christiansburg, en Virginie, qui ont le privilège d'inaugurer le service. Alors, ils peuvent choisir leur menu, n'importe lequel. L'option livrée par drone, c'est un bolide désert qui vole jusqu'à 100 km/h qui assure la livraison en moins de 20 minutes après la commande.
Des burgers volants, mais ils arrivent dans quel état, ces burgers ?
Alors, normalement, vous n'êtes pas censé le prendre sur la tête. Quand il arrive, le drone a été programmé pour venir déposer votre repas délicatement sur la pelouse. Alors, une seule condition, il faut habiter dans un rayon de 4 km autour du seul restaurant qu'il fait pour le moment et avoir évidemment une allée ou une pelouse. Les drones utilisés sont ceux conçus par Wing, la division de Google qui est en plein essor. DoorDash explique vouloir recourir aux drones pour proposer ainsi une solution écologique. Le service a été testé durant un an en Australie pour livrer plein d'articles d'épicerie de plusieurs magasins. Et c'est aussi un gain de temps divisé par trois. Et oui, pas de feu rouge, pas d'embouteillage dans les heures et aussi pas de grève des livreurs que DoorDash a récemment essuyé.
Mais alors, bon, on en entend beaucoup parler de cette livraison par drone depuis des années. Maintenant, là, ça semble devenir de plus en plus concret ou est-ce que c'est un simple buzz encore une fois ?
Alors, aux États-Unis, c'est une tendance qui prend de l'ampleur. Ah. Amazon a déjà commencé ses essais de livraison par drone dans plusieurs États. UPS aussi. Alors, c'est pas toujours couronné de succès car certains colis arrivaient endommagés ou des drones finissaient dans les câbles. Mais c'est utilisé aussi dans le reste du monde et bien souvent pour sauver des vies en livrant des médicaments et des vaccins dans les zones difficiles d'accès ou bien pour des interventions en mer. Les drones envoient des bouées de sauvetage, par exemple.
Ouais, alors, peut-être qu'il faudrait privilégier ce genre d'utilisation avant les burgers. Enfin, je sais pas.
Pourquoi pas ?
J'ai peut-être pas le bon sens.
Burger et bouées, sinon dans la mer.
S'ils arrivent à lancer les burgers, ils arrivent à lancer les bouées. C'est ça qui est.
Exactement. C'est pas. En France, on commence, mais on a une législation qui est beaucoup plus carrée. DPD, le service de livraison, le fait dans des zones qui sont difficiles d'accès aussi, dans le Var notamment, mais eux, ils placent un camion plus bas dans la montée pour atteindre des villes qui sont peu accessibles. Ça prend 8 minutes au lieu de 30 minutes en voiture aller-retour. C'est quand même un sacré gain de temps sur la livraison.
Donc ça commence à se faire en France. Bah tiens, Anthony qui est toujours avec nous au 32-16 du côté de Nevers. Anthony, est-ce que vous êtes prêt à voir votre burger arriver par la fenêtre en drone ?
Hors de question que ça. Je n'ai jamais utilisé des Uber Eats et le meilleur burger qui existe, c'est celui de papa. Je vais faire un petit plaisir à Philippe de Bourg-en-Bresse. Il faut cuisiner à la maison.
Voilà, le burger maison. Bah oui, celui-là, on n'a pas besoin de le faire livrer par drone. C'est aussi le message d'Anthony. Et puis, alors, Géraldine, avec toi, on va découvrir. Oui, je fais monter le suspense, mais moi, je sais que c'est chaque année quasiment la même personne. Qui est l'idole des jeunes ? C'est le rappeur Soprano qui retrouve sa place de personnalité préférée des enfants.
Et ouais, des 7-14 ans, selon le sondage annuel du journal de Mickey, et ben figure-toi que l'an dernier, Soprano s'était fait shipper sa place par Olivier Giroud, qui lui redescend au 6e rang. Alors pour compléter le podium, on trouve Antoine Griezmann en 2e et Thomas Pesquet donc en 3e. Si on résume le top 10, les enfants, les ados, ils aiment le foot, la musique, puisqu'on trouve Griezmann, Mbappé, Giroud, ou encore Big Flo et Oli. Et Vianney, la seule femme du top 10, c'est la chanteuse Angèle. Laisse-moi te chanter. Elle fait son entrée à la 8e place. Et quant à Soprano, on pourrait en reparler très vite puisque son nom circule pour peut-être accompagner l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai prochain. Facile.
Mais oui, qui sait.
Ah, c'est des chansons préférées.
Faut qu'on réinvite là-dessus. Hein, oui, c'est vrai. Non,
je livraison de la flamme.
Oui, peut-être qu'elle arrivera par un drone piloté par Soprano à Marseille le 8 mai prochain. Cette flamme olympique, on verra. En tout cas, ça reste l'idole des jeunes, Soprano, le Marseillais. Anthony, toujours avec nous au 32-16. On va vous souhaiter une belle matinée, Anthony.
Bonne journée à vous.
Vous restez avec nous,
les amis.
Mais oui, évidemment, et vous revenez quand vous voulez partager un café avec toute l'équipe. Et puis à 5h55, je vous annonce que la suite du programme, c'est évidemment votre journal de 6h qui approche. Et dans un instant, sur RMC et sur RMC Story, là, c'est parti. Vous pouvez allumer la télé, le canal 23 de la TNT. Vous allez tout savoir dès 6h sur ces nouvelles interpellations, ces nouvelles saisies de drogue hier après 4 opérations PlaceNet XXL. On vous dit tout dans un instant.
RMC, 5h-6h30,
Charles Matin.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct le matin, c'est donc sur RMC, c'est votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La guerre contre les trafiquants de drogue continue, près de 500 interpellations depuis la semaine dernière dans des opérations Place Net qui viennent de commencer à Lille, Lyon, Dijon et au nord de Paris depuis hier. Il n'y a jamais eu autant d'attentats déjoués en France. Vous entendrez Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'exprime après l'attaque de Moscou, et l'ONU qui appelle pour la première fois un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Et puis faudra-t-il bientôt payer plus cher pour une place dans un EHPAD public ou associatif ? La loi Bien Vieillir est sur le point d'être votée. La rapporteure du texte est mon invitée juste après le journal. Les premiers résultats ce matin de l'opération Place Net contre les trafiquants de drogue.
Oui, une semaine après la visite surprise d'Emmanuel Macron à Marseille, des opérations sont menées depuis hier à Lille, Lyon, Dijon et au nord de Paris. Et alors Romain Poiseau, le ministère de l'Intérieur, annonce quasiment 500 interpellations depuis le début de ces opérations.
Dans le Nord, à Lille, Tourcoing et Roubaix, 80 individus impliqués dans le trafic de drogue ont été interpellés. 70 000 euros ainsi que 2,5 kg de drogue ont été saisis. Il s'agit principalement de résine de cannabis et d'héroïne. Simultanément, à Dijon, 9 personnes ont été placées en garde à vue. Les plus de 1 000 gendarmes et policiers mobilisés sur les points de deal le resteront pendant 3 semaines minimum. Et puis, sans commune mesure avec les autres agglomérations, à Marseille, une semaine après le lancement des opérations Place Net, le bilan fait état de 161 personnes placées en garde à vue, 30 kilos de stupéfiants saisis, ainsi qu'un demi-million d'euros en liquide. Les opérations Place Net s'étendront à d'autres agglomérations dans les jours à venir, a précisé le ministre de l'Intérieur, avec pour objectif d'interpeller 850 individus identifiés en amont par les services de renseignement.
Et on n'a jamais déjoué autant d'attentats en France, affirme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur France 2 hier soir après l'attentat qui a fait 139 morts à Moscou, selon le dernier bilan. Attaque revendiquée par l'État islamique au Khorassan, une branche de Daesh qui a déjà sévi en France, comme à Paris, sur le pont de Bir Hakeim, c'était en décembre dernier.
L'État islamique est capable désormais de pouvoir enclencher des attentats à distance, puisque ce qu'on comprend de l'attentat en Russie, c'est que des gens à l'extérieur ont pu donner des ordres à des gens à l'intérieur d'un pays pour passer à l'acte de manière coordonnée avec le massacre qu'on a vu. Et donc ça, c'est très nouveau. Il y a une menace exogène de l'extérieur, comme le Bataclan. Et donc oui, nous déjouons beaucoup d'attentats en France, un tous les deux mois, organisés. La menace est forte, mais on n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme. Et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France.
Et pour la première fois depuis l'attaque en Russie, Vladimir Poutine admet qu'elle a été commise par, dit-il, des islamistes radicaux. Mais il continue de faire le lien avec l'Ukraine, où les Russes intensifient d'ailleurs leur offensive ces derniers jours, faisant encore 10 morts hier à Kiev dans des tirs de missiles. Et dans ce contexte géopolitique, à 3 mois aussi des élections européennes, les députés vont examiner aujourd'hui une proposition de loi du député Renaissance Sacha Houlier contre les ingérences étrangères. Il souhaite en fait que tous les lobbyistes au compte d'un État étranger s'enregistrent auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
On oblige tous ceux qui travaillent pour une puissance étrangère, à l'exception des diplomates, à se déclarer dans ce registre. Là, on parle par exemple d'un agent qui n'est pas un diplomate et qui travaille pour une ambassade, qui travaille pour un institut, qui est un universitaire, par exemple, qui est inscrit en doctorat et qui va essayer d'avoir des informations sur les entreprises françaises. Et cette personne-là n'est pas déclarée. Elle est sous couverture et donc soit elle fait un travail d'influence tout à fait légal, elle est dans le registre, soit elle fait un travail d'ingérence complet et donc là, a priori, elle ne se soumettra pas au registre. Mais si on s'en rend compte, on peut lui appliquer les peines et donc avoir l'expulsion que nous recherchons.
Ça continue. Nouvelle menace visant des établissements scolaires, cette fois dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs lycées ont reçu des menaces d'attentats à Nice, Cagnes, grâce au lycée Renoir de Cagnes-sur-Mer. Par exemple, le directeur demande aux lycéens de ne pas venir devant l'établissement ce matin. Un enseignant de Gironde sera jugé aujourd'hui à Paris pour une affaire abominable d'agression sexuelle en ligne. Prof dans un collège, il est poursuivi pour avoir commandité à distance des agressions sexuelles sur des enfants qui se trouvaient aux Philippines, des agressions qui regardaient ensuite en direct sur Internet, Marion Dubreuil.
Oui, ce professeur a d'abord été identifié par les Américains via son adresse IP en Gironde, en lien avec un réseau qui permet à des Occidentaux de commander des agressions sexuelles sur des enfants en Asie du Sud-Est. Or, cet homme de 45 ans a viré plus de 2000 euros via PayPal vers les Philippines entre 2014 et 2020. Dans son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé des centaines de vidéos et de photos pédopornographiques. Certains de ces contenus étaient inédits. La présence d'une fenêtre de discussion instantanée atteste qu'il s'agit de vidéos en temps réel mettant en scène des fillettes de 10 à 14 ans, l'âge des élèves de cet enseignant, aujourd'hui suspendu de l'éducation nationale, également père d'une adolescente. Son avocat l'assure, il n'a jamais eu de gestes ou de propos déplacés à l'égard de ses élèves.
Il est 6h05 sur RMC. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte pour la première fois une résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, 5 mois maintenant après l'attaque du 7 octobre et le début des frappes israéliennes. Le vote a été marqué par les États-Unis qui se sont abstenus, provoquant la colère d'Israël. Annulation d'une visite américaine en réaction. Les Israéliens craignent désormais pour les otages. Caroline Philippe, question, ce vote, il va changer quoi ?
Ne pas appliquer cette résolution serait impardonnable, selon le secrétaire général de l'ONU. En droit international, ce texte est bien contraignant. Il engage donc la responsabilité des parties qui ne le respectent pas. Mais dans les faits, Israël et le Hamas risquent surtout d'ignorer cette résolution. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Dans le cas d'Israël, de toute façon, il est hors de question d'accepter le principe d'un cessez-le-feu qui soit pérenne, comme c'est prévu, mentionné dans la résolution, en tout cas comme perspective. Et du côté du Hamas, il y a manifestement, sur la question des otages, également des obstacles.
En parallèle, des négociations se poursuivent, encadrées par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour instaurer une nouvelle trêve en échange d'otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre. Cette résolution de l'ONU reconnaît d'ailleurs l'existence de ces pourparlers.
Emmanuel Macron, toujours en Guyane, le président visitera le centre spatial de Kourou aujourd'hui avant de se rendre au Brésil. Demain, le président qui félicite le très probable vainqueur de l'élection présidentielle au Sénégal, le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye, qui promet de rester un allié sûr, dit-il, des pays étrangers qui seront respectueux. Les Jeux Olympiques, ça approche, vous le savez, mais il n'y a pas encore d'emballement. Hein. Seulement 37% des Français sont impatients que ça commence, selon un sondage de l'Institut Via Voice.
Et puis les Bleus sont à Marseille, ils joueront ce soir contre le Chili en amical.
Oui, c'est la répétition générale avant l'Euro, pour se racheter aussi de la défaite de samedi contre l'Allemagne, Arthur Perron.
Oui, les Bleus veulent vite passer à autre chose. Contre l'Allemagne, l'ensemble du groupe n'a pas été au niveau, y compris les leaders comme le capitaine Kylian Mbappé.
Non, je pense que c'était pas assez. On a été dépassé, c'était plus que du leadership. Si on devait résumer ça seulement à du leadership, le leadership a été défaillant, ça c'est clair. Maintenant, quand on regarde le match de samedi, on a été complètement dépassé sur pas mal d'aspects.
Didier Deschamps a déjà basculé sur le match contre le Chili. La défaite contre les Allemands ne change rien sur ses envies de faire tourner.
On n'est pas à l'abri, c'est pour ça que je vous avais dit un de mes objectifs. Même si ça va à l'encontre de la performance collective, c'était de revoir le maximum de joueurs sur ces deux matchs. Donc c'est pas parce que le résultat était négatif et le contenu aussi samedi que je vais changer ma vision.
Pour réagir ce soir au Vélodrome, 9 changements attendus. Mike Maignan devrait retrouver une place de titulaire comme Jonathan Clauss en défense et Olivier Giroud à la pointe de l'attaque.
Bon, et puis ce soir on surveillera ce qui se passe dans les tribunes du stade Vélodrome avec Kylian Mbappé, le Parisien qui s'attend à être sifflé, et Alexis Sanchez, l'ancien Marseillais qui sera certainement acclamé, lui qui a remis les pieds hier au centre de la commanderie pour un entraînement avec son pays.
Et puis à 6h08, c'est aussi l'heure du prono. Manu Le Chypre vient de s'installer dans ce studio. Salut Manu.
Bonjour à tous.
Alors, bon, pour les leftos, vous avez déjà eu le droit en exclu au prono de Géraldine qui nous a annoncé un 3-0 pour les Bleus un peu plus tôt ce matin. Très confiante. Elle maintient Quentin Vinet, Emmanuel Le Chypre ce soir, France Chili.
On part sur un 2-1.
2-1 pour Quentin, 2-1 pour Manu.
0-0.
Oh là là. Un Manu pessimiste.
Oh, ça va être chiant. Oh, le casseur d'ambiance.
Elle va répondre ce soir à 21h sur RMC. Mais tout de suite à 6h09, c'est l'heure de jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh oui, tous les matins, on vous offre des cadeaux. Vous, les leftos, qui êtes bien réveillés avec toute l'info sur RMC, on vous pose une question d'actu.
Attention, c'est très, très, très difficile ce matin. Contre quelle équipe de foot joue la France ce soir au stade Vélodrome à Marseille ?
Oui, c'est très dur. Il faut envoyer actu par SMS au 732-16. C'est peut-être ce qui est le plus dur dans ce jeu aujourd'hui. C'est d'envoyer un petit SMS actu au 732-16 et vous pourrez gagner
un radio réveil de la marque Muse. Ça vaut le coup.
Ben oui, ça vaut le coup. On vous tire au sort et vous êtes avec nous en direct à l'antenne dans quelques minutes. Si vous
vous envoyez actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Les EHPAD au bord du gouffre financier. Alors pour les sauver, une proposition de loi prévoit d'augmenter les tarifs des résidents, en tout cas ceux qui ne bénéficient pas d'aide sociale à l'hébergement. Alors pourquoi faire porter la charge financière aux familles? Est-ce que au fond le modèle des EHPAD est toujours viable? On va appeler tout de suite la rapporteure de ce texte. Elle est mon invitée dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 6h12, vous êtes bien sur RMC. Bon réveil à tous.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Laurence Christol.
Bonjour.
Vous êtes députée Renaissance de l'Hérault, mais aussi rapporteure de la proposition de loi Bien vieillir, qui doit être définitivement votée demain. Et ce texte prévoit notamment, eh bien, la possibilité pour les EHPAD publics, les EHPAD associatifs, d'augmenter leurs tarifs pour certains résidents. Alors, Laurence Christol, je ne vais pas vous rappeler le contexte de crise, d'inflation, le pouvoir d'achat. Qui va payer plus? Quels sont les résidents qui vont devoir payer plus pour leur place en EHPAD?
Alors tout d'abord, ça concerne essentiellement les EHPAD privés, les EHPAD publics, qui depuis de nombreuses années sont en difficulté. Nous le savons, moi je sais sur ma circonscription et de nombreux collègues qui sont dans la même situation, les EHPAD publics souffrent depuis ces trois dernières années d'une revalorisation pas suffisamment importante des tarifs d'hébergement. Vous savez, les EHPAD publics habilités à l'aide sociale ont un tarif fixe bas qui permet donc aux personnes qui ont peu de moyens de pouvoir bénéficier d'une prise en charge en EHPAD. Or, ces tarifs n'ont pas augmenté de façon suffisante par rapport à l'inflation, aux revalorisations salariales. Et aujourd'hui, ils sont dans de très grandes difficultés. On évalue à peu près à 2000 euros par an et par place en EHPAD public le déficit. Donc il y a eu une proposition qui a été faite donc au Sénat, c'est un article qui a été proposé par les sénateurs avec un avis qui était assez défavorable du gouvernement, et je dois l'avouer de moi-même au départ, sur la proposition de moduler les tarifs en EHPAD afin de pouvoir proposer une sorte de surloyer solidaire. C'est déjà le cas en fait. Dans les faits, on a dans certains départements comme la Mayenne ou dans certaines associations comme SOS, des surloyers solidaires qui s'appliquent aux résidents des EHPAD publics qui ne bénéficient pas d'aide sociale à l'hébergement.
Oui, c'est ça. Alors en fait, si je comprends bien, Laurence Christol, les plus modestes, ceux qui bénéficient de cette aide sociale à l'hébergement, ne seraient pas concernés. En revanche, ceux qui ont, a priori, les moyens, on leur demanderait de payer un surloyer dans les EHPAD publics. D'abord, ma première question, juste Laurence Christol, pour toutes les familles qui nous écoutent, est-ce que ça concernerait les résidents qui sont déjà aujourd'hui dans les EHPAD ou ce serait uniquement pour les nouveaux résidents?
Non, ça ne concernerait que les nouveaux résidents. Il est évident aujourd'hui, et c'était l'objectif aussi de la commission mixte paritaire, cet article a été voté au Sénat, nous en commission on l'a amendé, on l'a justement encadré, afin que justement ce ne soit pas les anciens et les résidents actuels qui soient mis en difficulté aujourd'hui, mais ça ne concernerait que les nouveaux arrivants. Et puis ça serait revalorisé qu'une fois par an maximum, et il y aurait un encadrement à la fois en valeur absolue et en pourcentage, afin que justement ce soit un surloyer solidaire qui existe déjà, mais pas une augmentation.
Est-ce que le risque, Laurence Christol, si les EHPAD publics ont le droit désormais, et que c'est encadré, etc., peut-être plafonné aussi par la loi, d'appliquer ce surloyer uniquement pour les résidents qui en ont les moyens, est-ce que l'EHPAD public, alors qu'on sait qu'on manque de place, va pas être tenté de n'accueillir justement que des résidents un peu plus aisés? Et les plus modestes, on leur dira non merci, parce qu'on a besoin de résidents qui payent le prix fort.
Justement, c'est une mesure qu'on a prise également et qui va être précisée dans le décret, c'est-à-dire que ces EHPAD qui pourront pratiquer sur surloyer solidaire encadré de façon assez stricte auront l'obligation également, puisqu'elles sont conventionnées à l'aide sociale, de conserver le nombre de places habilitées afin justement de ne pas avoir cet effet de bord.
Laurence Christol, Manu Le Chypre a une question.
Oui, alors je sais que c'est peut-être pas évident comme calcul, mais est-ce que malgré cette surprime, l'EHPAD public restera moins cher que l'EHPAD privé ?
Totalement. Et l'enjeu aussi, c'est de pouvoir dégager un peu de moyens pour ces EHPAD publics qui sont en difficulté financière, afin que justement ils continuent à proposer le même niveau de service dont les résidents ont besoin dans ces EHPAD.
Mais alors, il y a la question du financement, et puis il y a la question de la place. Parce que là, certes, on va augmenter, il y aura ces surloyers visiblement pour certains, pour une partie des résidents, ceux qui ont les moyens. Mais la difficulté aujourd'hui pour beaucoup de familles, qu'elles soient modestes ou pas, c'est tout simplement de trouver une place dans ces EHPAD publics. Et ça, la loi Bien vieillir n'y répond pas.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, la loi bienveillante ne répond pas à toutes les situations. C'est les premières pierres pour une prise en charge beaucoup plus élargie du grand âge. On va avoir besoin d'aller beaucoup plus loin, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, ces EHPAD publics qui sont en difficulté structurelle et conjoncturelle avaient besoin de soutien. On va bien évidemment arriver à un modèle qui va évoluer avec la transition démographique. On va devoir repenser le modèle de nos EHPAD, arriver aussi à envisager d'avoir plus de soignants. On arrive de plus en plus âgés en EHPAD, de plus en plus dépendant. C'est tout un modèle qu'il faut revoir.
Oui, mais ça, c'est pas le cas dans cette loi qui vient, voilà, soulager certaines situations actuelles. Et tiens, justement, j'aimerais une dernière question, Laurence Christol, vous qui êtes rapporteur de ce texte, hein, cette loi bien vieillir. Il y a une disposition qui a fait débat, la question de l'accueil des animaux de compagnie dans les EHPAD. J'ai l'impression que ça a divisé au Sénat, à l'Assemblée. Où est-ce qu'on en est finalement dans le texte qui doit être définitivement voté demain? Est-ce que n'importe quel résident aura le droit d'être en EHPAD avec son animal de compagnie dans tous les EHPAD publics ou associatifs?
Ça fait énormément débat. Aujourd'hui, instaurer un droit opposable à pouvoir arriver en EHPAD avec son animal de compagnie n'est pas en pratique possible. Il faut que mettre en place des dispositifs pour encadrer, justement. Donc, si vous voulez, le principe, justement, de ces échanges entre l'Assemblée, le Sénat et cette CMP, ça a été justement d'encadrer ce dispositif qui est effectivement que beaucoup de résidents souhaitent entrer en EHPAD avec leur animal.
Alors, quelles seront les conditions, parce que c'est très important, quelles seront les conditions pour aller résider en EHPAD avec son animal de compagnie?
Il faudra d'abord que le Conseil de la vie sociale établisse un cahier des charges afin que certains animaux puissent être accueillis. Est-ce que la personne résidente aura les capacités toujours de pouvoir s'en occuper? Il faudra prendre des garanties afin que ce ne soit pas une charge pour l'EHPAD, que ce soit le plaisir du résident, pas une charge ni pour l'EHPAD ni pour les autres résidents. Et ça doit être dès le départ défini à l'entrée de la personne en EHPAD et ça sera donc défini EHPAD par EHPAD. Et on laisse cette possibilité-là au directeur d'EHPAD de pouvoir décider, acter ou pas, de pouvoir accueillir le chat, le chien de leur résident et le temps où ils pourront être accueillis par rapport à la capacité de la personne.
Merci Laurence Christol, députée Renaissance, rapporteur de ce texte Bien vieillir qui doit être définitivement voté demain au Sénat. Alors il y aura le vote et puis ensuite on va suivre les décrets, parce que c'est dans les décrets évidemment souvent que se nichent les détails, notamment sur ce surloyer. On verra évidemment comment c'est mis en place et puis cette question aussi des animaux de compagnie. On a bien compris que ce serait fait ensuite un peu au cas par cas sur le terrain. Merci de nous avoir donné toutes ces infos ce matin en direct sur RMC. Il est 6h19.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso avec un sujet qui nous passionne. Manu, dont on débat depuis cette nuit dans la rédaction, cette bouteille de vin à 1 euro.
1,66 euros pour un Bordeaux. Est-ce que c'est bien raisonnable?
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin. 6h20 sur RMC. Tiens, vous vous souvenez de cette baguette à 29 centimes qui avait fait polémique? Eh bien, voici la bouteille de vin à 1,66€.
RMC, Manu Conso.
Avec Manu Le Chypre, cette bouteille à 1,66€, une bouteille de Bordeaux proposée chez Carrefour à l'occasion de sa foire au vin de printemps. Comment c'est possible de vendre du vin à 1,66€ la bouteille?
Alors, dans des conditions normales d'exploitation, ça n'est pas possible.
On est d'accord. Hein,
il faut être très clair, parce que si vous additionnez déjà le prix de la bouteille, le prix de l'étiquette, du bouchon, vous êtes déjà à 1 euro pour un industriel du vin.
Alors quasiment. Qu'on n'a même pas mis de vin dans la bouteille.
Voilà, c'est
l'instant.
Ça. Alors, oui. On n'a pas mis encore de vin dans la bouteille. Donc, allez, ça vous laisse un peu plus 60 centimes de liquide dans la bouteille, sachant que le coût de revient sans faire de bénéfice, juste pour couvrir les frais de production du vigneron, donc c'est-à-dire tout ce qu'on met dans la vigne, la main d'œuvre, l'énergie, etc. C'est déjà plus d'un euro par bouteille. Donc vous voyez bien que à moins de 2 euros aujourd'hui, c'est pas possible de produire du vin, même sans gagner d'argent en France.
Mais ça veut dire qu'on le vend à perte, ce vin?
Alors oui, et pour une raison simple, hein, c'est que vous croulez aujourd'hui sous les stocks. Les négociants aujourd'hui croulent sous les stocks et à un moment, il vaut mieux accepter de se couper un doigt que de se couper le bras, c'est-à-dire plutôt que de financer le coût très élevé de ces stocks, eh bien il vaut mieux les écouler à perte. C'est ce que fait le négociant qui assume le coût de la promotion, là, en l'occurrence la maison Johannes Boubé, parce qu'en fait, on vous propose pas directement la bouteille de Bordeaux à 1,66€. Ah. Non, la bouteille, si vous l'achetez toute seule, elle est vendue 2,49€. Mais par contre, si vous prenez l'offre 4 bouteilles achetées, 2 bouteilles offertes, c'est là que en fait la bouteille vous coûte 1,66€. Le problème, c'est qu'effectivement les stocks de Bordeaux bas de gamme sont absolument colossaux. Ces vins ne correspondent plus au goût des consommateurs, y compris les consommateurs chinois à qui on espérait fourguer tous ces mauvais vins avec juste l'appellation Bordeaux.
Disons-le clairement, on envoie la piquette en Asie.
Voilà, oui. Et ça, les Chinois, ils n'en veulent pas non plus. Et donc, on se retrouve avec une production beaucoup trop importante. Songez qu'on va déjà arracher 8000 hectares de vignes dans le Bordelais et que les professionnels vous disent qu'il faudrait en arracher 30 000.
Oui, donc cette bouteille à 1,66€, elle est surtout symbolique de la crise de la filière.
Que traverse la production de Bordeaux bas de gamme, alors que par ailleurs, tout un tas de vignerons dans le Bordelais font beaucoup, beaucoup d'efforts pour produire des Bordeaux à des prix raisonnables et de très bonne qualité.
Bah oui, alors faut-il
et ça
céder
ne doit pas gâcher
faut-il céder à cette offre.
Exactement, ça ne doit pas gâcher ces efforts-là.
Je vois Fabien sur Direct Studio qui nous dit « Moi, je préfère le litre de vin à 1,66€ au litre de gasoil à 1,80€. » Voilà, on prenait, bah oui, mais on compare, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Avec
ça marche moins bien dans la voiture.
Non, mais avec la baguette à 29 centimes et le litre de Bordeaux à 1,66.
Boire ou conduire, il a choisi.
Oui, c'est vrai. Non, mais là, la baguette et le vin à moins de 2 euros.
À
la
moins
bouteille
de 2
et
euros.
La baguette, c'est bon. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Vaste débat, n'hésitez pas. D'ailleurs, ça vous fait réagir. Évidemment, le 32-16 au Direct Studio. Mais tout de suite, on joue.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et à 6h24, on joue avec Cyril qui a été tiré au sort. Bonjour Cyril.
Bonjour, bonjour Charles, bonjour l'équipe.
Salut Cyril. Alors il faut tout me dire Cyril parce que j'ai rien sous les yeux. Où êtes-vous? Que faites-vous? Racontez-nous Cyril.
Eh ben moi je suis de la Drôme, à côté de entre Romans, sur Isère et Saint-Rambert-d'Albon.
Ouais.
Et je suis chauffeur routier et là je suis sur la route. Là, je vais charger à Vesoul pour partir en tournée sur toute la France.
Ah oui, donc de la route. Et tiens, quel temps il fait? Parce qu'on parle beaucoup de la pluie un peu partout aujourd'hui en France.
Là, j'ai vu que ce matin, quand je me suis réveillé à 4 heures, il avait plu. Et là, je vois que c'est nuageux. Et bon, bah, à mon avis, on va avoir un peu d'eau.
Oui, je vous le confirme.
Oui, Géraldine, vous le certifie, ça c'est la promesse, vous en avez de l'eau. Et puis, vous allez peut-être avoir un cadeau tout de suite, mon cher Cyril,
si vous avez
la bonne réponse à notre question d'actu.
Contre quelle équipe de foot joue la France ce soir au Stade Vélodrome à Marseille?
L'équipe de Alexis Sanchez,
bravo.
Le Chili.
Bravo.
Supporter marseillais, hein.
Ah bah oui, forcément, ça se joue à Marseille ce soir. Un ancien Marseillais aussi dans l'équipe du Chili avec Alexis Sanchez. Et pour vous, Cyril, un cadeau déjà?
Eh bah oui, vous avez gagné le Radio Réveil de la marque Muse. Bravo Cyril.
Et puis on va vous envoyer la coque pour smartphone RMC. Bref, vous êtes gâtés ce matin, Cyril. Et puis on va rouler. Bah, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe la météo, RMC avec vous, évidemment.
Oui, là, on n'a pas le choix, hein. Il faut.
Et bien on est là pour vous accompagner, évidemment, le matin.
Avec grand plaisir.
Et ça se passe avec vous au 32-16 et avec une certaine Apolline de Malherbe qui vient de s'installer dans ce studio. Salut.
Ouais, mais il y a incroyable. Plus fort qu'Apolline de Malherbe.
Incroyable. Elle déclenche les alertes.
RMC.
Vous l'entendez. C'est parti pour 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire pour tenter de gagner 50 000 euros. Mais oui, il y a 50 000 euros cette semaine dans le coffre RMC. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour jouer. On va ouvrir le coffre tous ensemble vendredi prochain. Mais jouez maintenant et puis soyez attentifs parce que l'alerte peut tomber à n'importe quel moment ensuite dans la journée, même pendant les pubs. Elle est tombée pendant la pub ce matin.
C'est vrai ?
De bonne heure. Mais oui, il faut être attentif. Ça tombe à tout moment. L'alerte, vous jouez tout de suite. Coffre par SMS au 732-16.
Avec peut-être 50 000 euros à la clé. On vous accompagne jusqu'à 9h dans un peu du matin avec une question à la une. Est-ce qu'on peut maintenir le parcours de la flamme olympique et la cérémonie d'ouverture des JO alors qu'on vient de repasser en alerte urgence, attentat? Venez vous emparer du sujet. Quentin vous attend au 32-16. Gérald Darmanin dit que la France n'a jamais été aussi armée contre les menaces terroristes, mais qu'elle n'a jamais connu une telle menace. Venez nous dire si vous estimez qu'il faut, oui ou non, peut-être faire machine arrière sur les très grands événements ou changer un peu le parcours. Et puis beaucoup de pluie attendue ce matin dans le département de l'Hérault, le tout sur des sols très secs. Le département est en alerte sécheresse, là aussi. Vous venez au 32-16 témoigner ou sur l'application RMC nous dire comment ça se passe du côté de chez vous. On vous accompagnera. Là aussi, vous aurez toutes les informations au fur et à mesure de la matinée, notamment avec Géraldine, bien sûr. Nous sommes le mardi 26 mars, Apolline Matin. C'est parti jusqu'à 9h.
RMC, Apolline Matin.